Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence enfin, 14h05, Christophe Rollin au micro, mercredi 23 mars 2022, émission numéro 258, je crois que c'est le compte, je ne sais plus très bien. Je suis en excellente compagnie, je suis content, Francis est revenu, c'est super, coucou Francis, et avec Francis sont également présentes, ah je suis vraiment très très flatté et très honoré, sont présentes Fiona McGown et Elisabeth Boudreau, qui sont actuellement au Théâtre de Célestin, non pas pour jouer, enfin si, elle joue dans un opéra de Bach. Alors vous allez dire, oh là, l'émission commence, c'est n'importe quoi qui est raconté. Non, Bach n'a pas écrit d'opéra, il a écrit des cantates, mais à partir de ces cantates, Cathy Mitchell a organisé... créer un opéra. Et c'est assez formidable. C'est donc au Théâtre des Célestins. Ça a déjà commencé la semaine dernière, le samedi 19 mars. Ça a également été donné le dimanche 20. Ça a même continué hier, mardi 22. Et ça se poursuit mardi, mercredi 23 aujourd'hui, vendredi 25 après-demain, samedi 26, dimanche 27. Si vous manquez ça, rattrapage à Clermont. Et puis peut-être encore plus tard ailleurs. Nous allons en parler donc pendant toute cette émission de cette nuit funèbre Trauernacht de Jean, tirée de cantates de Jean-Sébastien Bach, donnée au Théâtre des Célestins. Nous allons en parler pendant toute l'émission, jusqu'à 15h comme tous les mercredis. Chronique presque littéraire, numéro 9, 10, je ne sais plus très bien. 9, voilà, je crois. Commençons avec un titre, non pas interprété par nos deux cantatrices, soprano, mezzo-soprano. Vous verrez laquelle est laquelle. Écoutons du Fishback pour commencer. Extrait de la compilation des Inoccupables, mars 2022, le numéro 8. Écoutons Fishback avec ce titre, Dans un fou rire, extrait de l'album Avec les yeux. Et nous continuons ensuite. Vous nous écoutez sur le radiocanu.org, sur Internet, c'est très bien. À Lyon, sinon, sur la bande FM, c'est le 102.2.
Qu'on me tranche le cou, si je n'ai pas su trancher, entre tous les remous de leurs âmes certifiées.
Fishback. Ce n'est pas notre invité, non. Fishback était l'auteur, l'autrice, compositrice, interprète du titre que nous avons écouté à l'instant, dans un fou rire, extrait de l'album Avec les yeux. Mais dans cette émission aujourd'hui, nous recevons également deux chanteuses. Chanteuses lyriques, je ne l'ai peut-être pas indiqué en début d'émission, mais comme il est question d'opéra, c'est bien de l'art lyrique dont nous parlons. Nuit funèbre, Trauernacht, de Jean-Sébastien Bach. Je vous lis la petite présentation. L'histoire, il y a une histoire. Autour de la table à manger familiale, quatre frères et sœurs se retrouvent après la disparition de leur père. Un secret de famille sera révélé par l'entremise d'une lettre. Entre sidération, tristesse, colère et résilience, chacun va alors se confronter à son rapport à l'enfance, au deuil et à la mort. L'enfance, c'est la première question que nous allons vous poser. Vous posez tout d'abord, bonjour Francis, bonjour Fiona, bonjour Elisabeth Boudreau.
Bonjour.
Fiona McGowan, Elisabeth Boudreau, vous êtes donc les deux sœurs de cette famille. Vous êtes au Théâtre de Célestin, ça a commencé le samedi 19 mars et donné jusqu'à ce dimanche 27, 20h en soirée, 16h le dimanche. Mais donc, dans la vraie vie, vous n'êtes pas sœurs. Comment êtes-vous venues à interpréter, à devenir les comédiennes de ce spectacle? Comment êtes-vous-même devenues des chanteuses lyriques? L'une est soprano, l'autre est mezzo-soprano. Commençons par la soprano, je crois, Elisabeth. En plus, les auditeurs vont être, auditrices vont être très contents d'entendre un bel accent. Oui, c'est un bel accent.
C'est accent québécois.
À peine.
Ah. Donc oui, mais je viens du Québec, du nord du Québec. Donc, j'ai pas été nécessairement exposée très tôt à l'opéra, mais par contre, dans ma ville natale, il y avait la plus vieille maison d'opérette d'Amérique du Nord. Donc, j'ai été exposée à l'opérette relativement jeune. Puis, j'ai toujours chanté, mais c'est vraiment, je crois, vers mes 15 ans où là, j'ai fait le saut et je me suis dit, il faut absolument que je me concentre sur l'opéra. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai été un petit peu rebelle parce que, bon, le trajet classique vraiment d'un chanteur d'opéra serait d'aller au conservatoire, de faire des études dans les universités, tandis que moi, bon, j'ai étudié en privé, j'ai fait des cours en tant qu'étudiante libre au conservatoire, j'ai étudié les langues, j'ai étudié la littérature avant de finalement aller étudier en université, comme tout le monde devrait faire.
Oui. McGill, à Montréal.
À McGill, exact, où j'ai fait mon bac. Juste avant de faire le saut ici, en fait, suite à une audition, j'ai eu quelques petits contrats en France. Et puis, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à travailler ici. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'ai eu des petits contrats par-ci, par-là. Et puis, aujourd'hui, je crois que je travaille majoritairement en France. Je suis installée à Londres. Mais oui, c'est pas mal ça mon parcours, du Québec à Londres. Travailler en France.
Ça a dû être intéressant tout de même, je suppose, ce parcours universitaire que vous avez eu, qui vous a donné des connaissances, des compétences dans des domaines tout à fait différents de l'art lyrique.
Oui, ben, ça fait partie beaucoup de notre formation en tant que chanteur. On a beaucoup de différentes sphères comme ça qu'il faut travailler, dont les langues, évidemment, parce qu'on travaille en français, on travaille en anglais, on travaille l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe. Donc, les langues sont très, très, très importantes. Et puis, bon, on travaille avec de la littérature qui est très dense aussi, parce que c'est des pièces qui sont là depuis des années. Et puis, je crois que c'est très important d'avoir une connaissance de, justement, de la poésie, de la littérature pour réussir à vraiment s'établir dans le domaine de l'art lyrique. Mais bon, ça, c'est deux choses. Il y a la danse, il y a plein d'autres sphères comme ça qu'on est appelé à travailler en tant que chanteur, parce que c'est vraiment un art où on jongle de tous les sens, de tous les côtés. Je ne sais pas pour toi, Fiona, mais pour moi, c'est vraiment, c'est mon impression. Je jongle avec un million d'arts et de différentes sphères.
Attention, je vous l'avais déjà dit lorsqu'on a pu s'apercevoir samedi après l'opéra, je n'oserais jamais vous taquiner, mais quelle grâce pour saluer. Mais vraiment, c'est un geste qui est mais plein d'une sorte, d'une forme de retenue, de réserve. C'est très, très élégant. Le corps n'est pas forcément incliné. Lors des saluts, le public l'applaudissait à tout rompre. Moi, je criais des bravos que j'en pouvais plus. J'ai vraiment trouvé ça mais absolument mais stupéfiant. Mais vocalement, l'orchestre dirigé par Simon-Pierre Bestion de Camboulas, c'est absolument... Je pensais que c'était des musiciens de l'orchestre de l'opéra, et en fait non, hein, ce sont un peu des jeunes du conservatoire. C'était absolument génial, et Ah oui, vous saluez avec beaucoup. Vous ne jonglez pas, hein, ce n'est pas une artiste de cirque. Vous avez bien fait, Elisabeth, c'est très aimable à vous. Vous êtes tournée de l'allemand, j'y pense. Il y en a donc actuellement, puisque peut-être l'ai-je fait comprendre. Nuit funèbre Trauernacht de Jean-Sébastien Bach, c'est chanté en allemand. Vous chanterez prochainement en allemand à l'Opéra Strasbourg, c'est ça? C'est
sur
la saison 22-23. Vous avez très bien fait, vous êtes aimablement tournée vers Fiona tout à l'heure. On va poser donc tout de suite cette autre question. Fiona, donc comment êtes-vous devenue la mezzo, hein, je crois ça, mezzo-soprano hein, que vous êtes, bien installée. On écoutera dans quelques instants un titre de Camille Pépin, vous nous avez indiqué ça.
Eh bien écoutez, je chante depuis que je suis toute petite et je ne viens pas du tout d'une famille de musiciens, donc j'écoutais vraiment des CD dans ma chambre quand on écoutait encore des CD sur une chaîne IFI. Et je pense qu'à Noël, j'ai eu un CD de Céline Dion.
Oui, elle l'a dit.
parce que c'est la vérité, ça s'est passé comme ça. Et c'était Céline Dion en direct au Stade de France. Je pense que c'était en 1999. Et à un moment donné, dans le direct, Céline Dion dit merci à la maîtrise des Hauts-de-Seine. Et donc, j'habitais dans les Hauts-de-Seine, j'étais très intriguée. De ce que ça pouvait bien vouloir dire, et j'ai compris que c'était une école où les enfants apprenaient à chanter, et je suis rentrée dans cette école comme ça. Et ça a commencé quand j'avais 12 ans, et il se trouve que c'était le chœur d'enfants de l'Opéra de Paris, et donc j'ai commencé à l'Opéra Bastille, à l'Opéra Garnier, sur scène, costumée, maquillée, à chanter de l'opéra sans avoir aucune idée de ce que je chantais, puisque je ne venais pas du tout de ce milieu et de ce monde même sonore. Et petit à petit, avec les années, j'ai adoré ça, et j'ai jamais arrêté, voilà.
C'est super intéressant, j'entends toutes les deux. En fait, vous n'avez pas du tout un parcours classique, comme vous pourriez l'imaginer. On se dit que, voilà, des artistes interprètes qui sont plutôt dans une sphère opéra, plutôt classique. Et en fait, vos deux parcours diffèrent totalement à ce qu'on pourrait imaginer, nous, public, lambda, de se dire, ben voilà, elles ont dû faire des études.
Le conservatoire.
Vous en faites pas, on a fait énormément d'études.
Oui,
mais au départ, on est motivé par un amour du chant total, qui est un amour, en fait, je pense, avant tout sensoriel. Je sais pas pour toi Elisabeth, mais de la vibration,
oui,
plaisir,
oui.
Du chant physique presque, et après il se trouve que ça s'est tourné vers le milieu de l'opéra, la musique classique, etc. Mais voilà.
Vous pourriez, on écoutait Fishback tout à l'heure, je sais pas, la question n'était même pas préparée, pourriez-vous verser chanson pop ou non, c'est pas forcément, c'est pas envisageable, c'est pas...
C'est assez différent. Puis, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé en chantant dans le Québecissime, qui était une troupe qui voyageait dans le Québec. C'était du pop, en fait, qui faisait de la revue musicale. Puis moi, vraiment, ce qui me fait verser vers le classique, c'est juste cette sensation-là que c'était un art qui était total. J'avais tout d'un coup tout devant moi. J'avais le théâtre, j'avais tout ce qui était la musique. Mais c'est comme si, tout d'un coup, juste la musique populaire prenait une dimension qui était complètement magnifiée. Puis je crois qu'à partir du moment où ça fait des années que tu étudies la technique classique, de retomber au populaire, oui, je le fais pour moi, pour écrire des chansons, pour m'amuser. Mais il y a vraiment il y a quelque chose qui est construit au fil des années, une technique, un instrument aussi. Et puis de retourner au populaire serait un petit peu de perdre tous ces efforts-là qu'on a mis pendant des décennies. Je sais pas pour toi.
Et puis chanter de la pop, c'est chanter avec un micro. Et en fait, chanter lyrique, c'est chanter sans micro et ne se suffire que de son propre corps. Et c'est vrai que quand on a développé ça, c'est tellement extraordinaire que revenir au micro, moi, je saurais pas faire, en fait. Voilà.
Francis, qui la répondra
en fait,
à ça.
C'est intéressant. En effet, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. C'est que il y a une vraie technique de l'amplification qui fait la spécificité des musiques actuelles, comme on dit, et qu'on retrouve pas du tout dans les musiques classiques ou au opéra. Et en effet, c'est toujours très impressionnant pour un public de voir que la voix peut passer par-dessus un orchestre symphonique, qui est quand même très puissant. Enfin. L'orchestre symphonique, c'est que ça a quand même beaucoup, beaucoup de dB, on est bien d'accord. Et c'est un vrai travail, une vraie technique pour les chanteurs et les chanteuses d'opéra, j'imagine, de pouvoir être au-dessus de cette puissance sonore, ce qui en ressort encore plus de puissance et d'émotion.
Sans se faire mal, puisque sans c'est mal, développer une puissance qui soit pas du tout celle du cri.
C'est vrai, oui. Absolument, c'est comme un peu les ballerines qui étudient pendant des années pour être sur la pointe.
Oui.
Il faut travailler les muscles, il faut aussi être très discipliné. Et puis, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Donc, si on y arrive, on veut pas nécessairement retourner en arrière.
Et puis, ce que je trouve intéressant dans vos deux parcours aussi, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous mélangez les arts, en fait. C'est ça qui vous plaît. Et en effet, quand on va voir un opéra, il y a bien sûr l'aspect vocal, l'aspect musical, mais l'aspect théâtral, l'aspect danse. Enfin, on parlait de mise en scène tout à l'heure. Donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arts mélangés. Et c'est peut-être ça qui vous parle peut-être plus que la musique populaire, comme vous disiez tout à l'heure, Elisabeth, je sais pas.
Oui, je pense que oui, parce qu'il y a un aspect théâtral qui est très présent dans l'opéra, et puis ça nous permet vraiment d'arriver sur scène, d'être quelqu'un d'autre, ça peut être un acteur. Donc, il y a tout qui est mélangé ici, même ce désir-là d'être une actrice quand j'étais jeune, d'aller à la télévision, de faire des films. Et puis, tout d'un coup, ça nous est donné juste par l'entremise de notre voix. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour un artiste parce qu'on peut explorer des sphères qu'on n'aurait pas pu juste avec un piano et une voix.
Et quand on a goûté à ça, à la scène, c'est très difficile de s'en passer.
Je vous remercie. Francis, c'est très bien. On est déjà prêt à parler de cette nuit funèbre Trauernacht, qui, à partir d'extraits de cantates méconnues de Bach, a été, par la metteuse en scène Cathy Mitchell, composée avec le chef d'orchestre également Raphaël Pichon. Ça a été donc, je sais pas, une œuvre inventée en quelque sorte. Et on voit bien, on le voit très bien sur scène, les actrices que vous êtes, ces deux sœurs, dont le père est décédé, avec beaucoup de componction, beaucoup de recueillement. Vraiment une très belle œuvre. Nous allons en parler dans quelques instants, une fois que nous vous aurons écouté vous-même, Fiona McGowan, dans cet album de Camille Pépin, Chamber Music. Alors c'est un album un peu plus complet que cela, mais ce Chamber Music, c'est le titre de cette partie même, orchestrée, enfin du moins mise en musique par Camille Pépin à partir de textes de James Joyce. C'est de l'anglais, donc c'est bien ça?
De l'anglais, et comme Elisabeth, j'ai fait aussi des études de lettres, de littérature, et chanter du James Joyce, c'est quand même assez rare pour le noter.
Je suis jalouse, oui.
On va donc écouter le titre que vous nous avez recommandé. Il va falloir également, auditeur, auditrice, j'en suis un peu désolé, Fiona, vous ne vous en rendez pas compte, mais votre micro est légèrement défaillant. On vous entend très très bien, mais il y a un effet d'écho, une réverbération. On va opérer un changement de micro. Donc écoutons ce titre. Vous m'avez recommandé le Rain Has Fallen, peut-être, c'est celui-ci, ou Gentle Lady.
Numéro 17.
Oui. Fallait pas indiquer le numéro. Non, c'est pas grave. Donc ce sera peut-être Love Came to Us. Enfin bref, nous allons voir et nous allons ensuite parler plus précisément de cette nuit funèbre, Trauernacht, titre original de Jean-Sébastien Bach, enfin disons orchestré à partir de cantates de Jean-Sébastien Bach. C'est donné actuellement au Théâtre des Célestins. C'est dans le cadre, je ne l'ai peut-être pas indiqué, du Festival Secret de Famille de l'Opéra de Lyon. Rigoletto est donné actuellement, Irello est également donné. Et donc cette nuit funèbre, c'est dans le cadre de ce festival. Et comme ça, tout ne peut pas être donné à l'Opéra, c'est légèrement délocalisé. Je crois qu'il y a quoi? Il y a 500 mètres, même pas un kilomètre entre les deux structures lyriques, l'Opéra et le Théâtre des Célestins. C'est un beau cadre. Actuellement, les magnolias, je crois, ils sont en fleurs sur la place. C'est assez beau. Auditeur, auditrice, si vous souhaitez y aller, eh bien encore ce soir, mercredi 23 mars, demain c'est relâche. C'est encore les 25, 26 et puis également 27 à 16h dimanche et 20h en soirée. On va avoir le temps. C'est bien Emma Francis de chercher à faire ce changement de micro. Quoique le titre est court, mais bon.
On va trouver,
auditeur, auditrice. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, on fait la Magone, Chamber Music de Camille Pépin, une très jeune compositrice. Tout le monde est jeune ici. Hein. Même nous, on est redevenus jeunes. Francis, t'es jeune, moi aussi je le suis. Et alors, Elisabeth et Fiona, qu'est-ce que vous êtes jeunes? Écoutons Chamber Music et nous continuons ensuite sur cet opéra, plus précisément, enfin disons, opéra de Jean-Sébastien Bach. et je me permets de faire cela. Je ne coupe pas le titre, auditeur, auditrice, ne vous méprenez pas, c'est que Fiona m'a indiqué que nous pouvions diffuser oui, Gentle Lady, ou peut-être Rain Has Fallen, je crois que c'était Rain Has Fallen, ou Love Came to Us, ou No, peut-être. Oui, c'était No, oh, No, je me suis trompé. Merci.
Ça a l'air de faire beaucoup rire, Elisabeth.
Voilà, j'en suis désolé. Promis, je me tais, Francis, à présent, une fois que j'aurai rappelé que nos deux invités, mezzo-soprano Fiona McGone, soprano, Elisabeth Boudreau, vous nous avez indiqué votre parcours et maintenant nous sommes prêts à vous poser cette question. Que faites-vous actuellement à Lyon dans cette belle salle? C'est une belle salle, hein, c'est celle des Célestins, très différente de la salle de l'Opéra qui est austère, hein, un peu noire, un peu dure. Que faites-vous donc dans cette nuit funèbre? Quel est ce spectacle? Comment est-ce que vous avez été contacté peut-être par Cathy Mitchell? Vous ne faites pas partie, je crois, de la production originale. Tant mieux, hein, moi je suis content de vous avoir vu, vous, hein, mais les extraits que donne le Célestin, je suis sûr que c'était moins bon. Je sais que c'était moins bon.
Donc, c'est une production, en fait, qui a été créée à Aix, au Festival d'Aix-en-Provence de 2014. Donc, ça fait quand même un petit bout. Ça a été créé par Raphaël Pichon et Cathy Mitchell, qui sont venus ensemble vraiment pour créer cet assortiment de pièces de Bach. Et puis, ils ont créé ce qui ressemble à un opéra, mais qui n'est pas un opéra. Donc, comme vous aviez mentionné, Bach n'a jamais écrit d'opéra. Donc, c'est un petit pastiche de pièces qui ont été mises ensemble avec ce qui a l'air d'être une histoire. En fait, Cathy le mettait très bien. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle appelait ça un poème chorégraphié. Donc, en fait, Trauenhart, c'est quatre enfants qui viennent de perdre leur père. Et puis, on les retrouve la journée des funérailles. Donc, déjà là, c'est pas très jojo. Mais vraiment, on est dans ce trajet-là où les quatre enfants, d'un, essaient de digérer cette mort-là et de voir qu'est-ce qui va se passer après, dont la lettre, la fameuse lettre. Et puis, il y a beaucoup d'éléments qui sont pas très clairs au public, mais qui sont présentés justement pour que les gens y voient ce qu'ils veulent y voir. Donc, j'ai quand même une réserve à dire, c'est exactement ça qui se passe, parce que je crois que ce qui a été placé en scène, c'est vraiment pour permettre aux gens de digérer l'information de la façon qu'ils préfèrent la digérer. Et puis, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir après le spectacle, qui nous ont dit, pour moi, j'ai eu cette impression-ci, puis quelqu'un qui nous arrive avec une impression qui est complètement différente. Mais je crois que c'est la beauté aussi de ce spectacle-là, parce que ça nous permet de voir quelque chose qui est plus grand que seulement les faits. Je ne sais pas pour toi, Fiona, qu'est-ce que...
Oui, complètement, et je pense que les quatre enfants n'ont pas du tout la même traversée émotionnelle face à cette mort. Donc même de parler au nom des quatre enfants, ça serait pas forcément juste. Et c'est vrai que après un spectacle, il y a un spectateur qui est venu me voir en me disant alors vous êtes vraiment la fille très réservée, complètement nourrie de culpabilité avec vos péchés. Et je l'ai regardé, je me suis dit tiens, bah, c'est pas du tout ce que je vis sur scène. Mais il a vu ça. Aussi je pense parce qu'il a lu les sous-titres de la traduction allemande, enfin traduction française des cantates de Bach, et nous on nous a dirigés dans notre travail scénique pour ne surtout pas porter le sens des mots, ce qui est un travail très original puisque ça m'était jamais arrivé. Évidemment quand je chante en italien, en allemand, même en russe, en anglais, on pense à ce qu'on dit, et là tout le travail était d'extraire ce sens de évidemment religieux des cantates luthériennes de Bach ancienne, enfin vraiment, et y mettre des intentions familiales en fait, et des dialogues familiaux qu'on pourrait avoir après un enterrement. Et donc quand je dis au Schwerergang zum letzten Kampf und Streit, bah je dis, moi en tout cas dans ma tête, je dis complètement autre chose. Je dis ah tiens, j'ai entendu quelque chose, ça me fait penser à, et puis je me retourne vers mon frère et je le prends à partie et il me répond peut-être complètement autre chose que ce qu'il dit en allemand. Mais on a vraiment nos parcours de sens.
Tout ce que vous disiez, Elisabeth, que le public peut-être peut ressortir avec complètement autre chose, c'est parce que peut-être il y a ce travail-là de distance entre le texte qui est écrit et puis ce que vous et la mise en scène permet, en fait. Est-ce que c'est...
Yeah, absolument. Parce que, bon, la musique de Bach, c'est une musique qui est sacrée. Donc, c'est très... le focus est sur Dieu. Mmh. Sur l'espace, en fait, entre l'homme et Dieu, puis comment on la remplit de crainte ou d'espoir. Tandis que la mise en scène, mettant la musique dans un contexte qui est d'un très sobre, mais très quotidien aussi, fait un peu que la musique devient désacralisée. Donc, c'est plus une question de remplir cet espace-là. Le focus redescend sur l'humain, sur l'homme, sur la façon dont on vit dans ces tensions-là qui sont exprimées dans la musique de Bach, pas nécessairement sur la foi.
Mmh. D'où peut-être cette... Enfin, moi, j'ai pas vu le spectacle, mais je vous entendais parler tout à l'heure de mise en scène. Peut-être que la mise en scène joue justement ce rôle-là, de démystifier, de enlever le côté religieux. Est-ce que c'est ça l'idée ou...
Et en même temps, c'est la musique de Bach, et la musique de Bach, elle fait un travail toute seule. Enfin, on n'a même pas besoin de la porter. C'est tellement immense et tellement profond que ça parle de soi sans même qu'on l'habite de façon religieuse ou comme tu disais, avec cet espace entre l'humain et Dieu. En fait, ça se fait tout seul. Ça charrie de la densité et quelque chose qui nous parle à tous, je pense.
Mais en même temps, je reviens sur ce que vous disiez en première partie d'émission sur le mélange des arts. Et c'est intéressant de vous entendre parler, vous toutes les deux. Vous êtes quand même vachement intéressés et focalisés sur justement cette mise en scène et sur ce travail qui n'est pas uniquement que sur l'amour de la musique, j'ai envie de dire, mais ce que ça peut représenter, ce que ça veut dire, je sais pas comment...
Est-ce qu'on pourrait peut-être aussi décrire ce qui se passe sur scène? Parce que là, il me semble, on évoque beaucoup ces termes de mise en scène, tout ça. On aurait pu dire qu'il y a une magnifique scénographie, de très beaux décors et costumes assurés par Vicky Mortimer. Les lumières sont mais stupéfiantes. James Farncombe, de tout court, je rajoutais d'autres sonorités. Reprise de la mise en scène par Robin Thébut. Comme ça, j'ai presque fait la distribution. Il manquera encore les noms de vos grands frères, ou frères, je ne sais pas. Vous êtes, vous, la fille aînée, Elisabeth Boudreau. Fiona McGowan, vous êtes la fille cadette. Il y a aussi le fils cadet. Non, ce n'est pas lui, hein, ce n'est pas Maciej, non, c'est un Andrew, je crois.
Andrew
c'est...
Henley.
Voilà, et puis il y a aussi, en revanche, c'est bien le fils aîné Romain Beauclair. Donc vous êtes sur scène, peut-être d'autant plus d'humain, Elisabeth, que quand vous entrez sur scène, vous entrez très lentement. Et là, pour le coup, ça, effectivement, c'est magnifique. Vous entrez avec beaucoup de grâce, très très lentement. Hein, il y a ce phénomène de ralenti qui est créé. Une table est dressée sur scène. Une table vide, hein, je crois. Vous mettez le couvert au début, vous commencez, parce que c'est un repas, en fait. Cette nuit funèbre, le père vient de décéder. Enfin, il est décédé il y a quelques jours. L'enterrement, je suppose, a eu lieu. Et donc, c'est le repas de... Je parle trop. Elisabeth, Fiona, qui est-ce qui lance un peu ce qui se passe sur scène? Une table est dressée, une belle table blanche avec deux éclairages qui se font par le...
Et donc, c'est en fait mise en scène la journée des funérailles. Donc, comme je disais un peu plus tôt, Katie est arrivée avec cette idée-là de poème chorégraphié. Et puis, ce qui fait que c'est pas linéaire. L'histoire n'est pas, bon, on arrive dans la pièce et on reste dans la pièce. Au départ, quand on arrive, c'est avant les funérailles. Et puis, bon, il y a une petite transition et puis, on est déjà après les funérailles. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a ces moments-là qui arrivent en musique et puis qui sont pas nécessairement liés temporellement. Et puis, ça nous permet, en fait, d'explorer des moments qui sont très forts émotionnellement, mais pas nécessairement dans une exploration qui est linéaire. On n'est pas dans un récit. On est vraiment dans des petites explosions émotionnelles, presque. Puis, je ne sais pas ce que toi, t'en penses, mais c'est sûr que c'est tous des moments très forts, que ce soit avant les funérailles, que ce soit après les funérailles, que ce soit le moment où on reprend les vêtements du père qui est décédé et puis qu'on voit qu'est-ce qu'on va faire avec ses vêtements, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui reste de lui. Qu'est-ce qu'on va faire avec ses papiers? Qu'est-ce qui va arriver de la maison? Donc, c'est quand même, c'est beaucoup de thèmes qui sont très lourds, Mais c'est des choses avec lesquelles on va tous devoir traiter à un moment ou à un autre. Donc, je pense que c'est aussi ça, la force de cette mise en scène-là. C'est très, très sobre, mais tout le monde peut s'y retrouver.
Mais surtout quand on parle de décès et que ça concerne tout le monde, en fait. Mmh. Enfin, voilà, on sera tous confrontés, on a déjà toujours tous déjà été confrontés au décès et comment on interagit avec ça. Enfin, à vous entendre parler, c'est un peu ça dont vous, vous parlez là, pendant ce spectacle.
Fiona, la fille cadette peut-être, Fiona, oui.
Et d'ailleurs, c'était le grand défi des répétitions, c'est qu'on s'est retrouvés face à ça. Enfin, je peux dire nous, je crois, pour Elisabeth et moi, parce qu'on s'en est beaucoup parlé, mais il a fallu traverser émotionnellement le sujet. C'est-à-dire qu'on était en répétition, on était en larmes, on chantait et on pleurait en même temps, parce que, ben, je pense que c'est des sujets qui nous concerne tous, la mort du père, la mort même symbolique du père, qu'est-ce que ça veut dire d'enterrer quelqu'un de proche, de se retrouver dans sa maison avec son absence et qu'est-ce qu'on fait des affaires du mort ? C'est des vraies questions.
Oui, voilà. les petites choses du quotidien qu'on voit attraper.
La fratrie qui se retrouve, alors que peut-être qu'il y a des différends dans cette fratrie, et comment ça se parle, comment ça communique, qu'est-ce qu'on fait du testament, comment les réactions différentes face à ce testament. Et oui, l'aspect matériel des choses aussi, qui est évidemment lié à de l'émotion et du symbole, mais qu'est-ce qu'on fait des affaires du mort. Et je pense que c'est vraiment tout le long du spectacle, on est face à la chemise, les lunettes, le portefeuille, la montre du père, les chaussures du père, et c'est presque ça qui nous lie. On se passe ces objets-là.
Les histoires de famille.
Bien sûr, il y a une lettre circule aussi.
Il y a une lettre qui circule, qu'on lit chacun de notre tour, et c'est pas pour rien que ce festival s'appelle Secret de famille, parce qu'évidemment.
Mais ça me fait penser, quand vous disiez tout à l'heure, je sais pas si ça a à voir avec ça, mais je pensais à un film de Winterberg.
Festen.
Évidemment.
Festen.
J'ai pas vu votre spectacle, ouais. Mais quand on en parlait tout à l'heure hors antenne, tout de suite je me suis dit, tiens, il y a un petit côté Festen. Mm. Et je pense que ça peut être pas mal pour les auditeurs.
En tout cas, moi aussi j'y ai pensé pendant les répétitions, il y a cette espèce de règlement de compte entre frères et sœurs, règlement de compte avec la personne disparue, avec l'apparition du père comme des souvenirs, parce qu'il y a quand même un comédien qu'on peut aussi citer.
Philippe Dussigne.
Philippe Dussigne, voilà, qui est lyonnais d'ailleurs, et qui incarne ce père, ce souvenir du père, ce fantôme. Et après, Festen, ça parle d'inceste. Là, je crois qu'on n'est pas quand même dans ce sujet. Ça,
oui, comme vous disiez tout à l'heure, Elisabeth, peu importe, on peut projeter, le sujet, mais ouais. On peut projeter simplement des émotions et puis des appréciations, enfin ouais. Bref, de l'affect,
ouais,
et que ce soit sur le sujet de l'inceste ou sur d'autres sujets, en tout cas c'est le passif familial qui en ressort, enfin de ce que je comprends.
Et le passif familial, c'est souvent dans des grands non-dits. Et
bien sûr,
c'est pour
sûr.
Ça que je trouve ça tellement génial, cette mise en scène, parce que rien n'est dit, justement. Et dans la famille, s'il y a bien une chose qui existe beaucoup, c'est ce qu'on ne dit pas. Et dans ce spectacle, ça parle beaucoup de ça, et je trouve que c'est très bien rendu.
Intéressant, du coup. Et ce qui me paraît aussi intéressant à souligner, c'est que à travers une langue que nous, au public français, on ne va pas comprendre, c'est-à-dire que c'est vos voix qui vont devoir transmettre justement cette subtilité des émotions juste avec la voix. Moi, ne parlant pas du tout allemand, j'imagine que le public peut comprendre des choses.
Alors, on reconnaît Schauet, Dor und Seet, je l'ai identifié, c'est la cantate BWV 46, c'est l'un des morceaux finaux. Vous êtes en quatuor, mais c'est absolument c'est magnifique, et peut-être vais-je avouer erreur que j'aurais faite. Alors moi, je pense ne pas être assez entré dans cette mise en scène, et ça m'ennuie beaucoup de vous entendre en parler, parce que je nourris d'énormes regrets. Je me dis qu'il va falloir que j'y retourne. Moi, j'ai voulu davantage être attentif à la musique, qui est belle. Les musiciens, j'étais en train de vérifier ça, ce sont bien des étudiants de la classe de musique ancienne du CNSMD de Lyon, piloté par Anne Delafosse. C'est quand même stupéfiant, les musiciens sont absolument mais sidérants. Vous sur scène, ça m'ennuie de le redire encore, mais même mes Romains compris, enfin les hommes, vous êtes beaux, et vos voix sont belles, c'est absolument génial. Moi, c'est le repas, enfin ça m'a semblé trop trivial, ce café qui est pris, cette soupe qui est mangée.
Mais ça
aussi.
Ça nous concerne tous.
Oui, bien sûr.
À manger.
Et je crois que c'est moi j'ai pas supporté, enfin supporté. Moi je voulais rester dans un aspect sacré de Bach, tout ça, et là.
Bach, il a fait des cantates de café, vous savez.
Ouais.
C'est vrai, des cantates profanes.
Mais en tout cas, c'est ce Schauerdorf und Seet, c'est une la langue allemande. On identifie à une très belle diction, et c'est absolument un très beau spectacle. J'ai mangé un peu la question, Francis, que tu voulais poser, c'est-à-dire quelque chose se passe effectivement avec les voix, avec la musique, et sur scène on a donc un beau spectacle avec une sorte de couleur bleutée aussi, ça je crois, enfin du moins l'éclairage et...
Non, simplement ce que je voulais dire, c'est que comme la majeure partie des publics ne parlent pas forcément les langues, et du coup ce qui est difficile, et je trouve intéressant que vous expliquiez plus concrètement de quoi on parle, même si on parle pas du factuel, je trouve que ça doit être très complexe pour les chanteurs et les chanteuses de faire passer justement des émotions qui sont quand même assez complexes et assez subtiles à travers des mots qu'on ne comprend pas, et c'est peut-être là tout le talent des chanteurs et des chanteuses
passe.
J'imagine qu'il y a un gros travail.
J'ai été ému aux larmes, ne sont pas tombées, vous avez dit avoir pleuré pendant les répétitions Fiona, mais c'était samedi après-midi, moi j'étais peut-être pas assez dans le truc, mais j'irai un autre jour, je pense que je sangloterai.
Je comprends mieux l'émotion du travail, si tout ça doit ensuite transpirer au sein des représentations au fur et à mesure, j'imagine qu'il y a un vrai travail à faire en amont, et vous l'expliquez très bien.
On a beaucoup parlé tous les deux. À vous, Elisabeth, Fiona, zut, c'est quand même... Vous êtes géniale sur scène, que répondre à ça, c'est difficile. Oui, bah, oui, c'est pas faux. Non, vous êtes pleine de recueillement, de gravité, c'est...
Écoutez cette voix d'Elisabeth qu'on n'a pas encore entendue.
Ah, c'est quelle introduction. Je l'ai sous les yeux. On va écouter quelques passages de ce Quilter, number 5, je crois, Shakespeare Songs, opus 23. Elisabeth Boudreau, vous êtes la soprano. Vous êtes accompagnée par Christophe Gaudreau au piano. Donc, j'extrais cela de votre chaîne YouTube, voilà, comme ça, pour l'indiquer. Alors, je crois que la piste va être un petit peu longue. Hein. Il y en a pour 10 minutes, un peu moins, c'est 8 minutes. On va écouter que le début. Et puis après, si, on vous relancera encore sur ce travail que vous avez dû faire de. Oui, non, c'est moi, je suis vraiment ravi de vous voir en face. Là. Vous n'êtes pas les mêmes sur scène, avec les cheveux effectivement attachés, avec beaucoup de vous êtes droite, vous êtes. Écoutons, Quilter. C'est 5 Shakespeare songs, c'est 5 chansons de Shakespeare. On va même pas écouter, je pense, la première en entier, parce que prise de son est peut-être pas très bonne, ou ça date de quelques années, c'est ça, Elisabeth, ou c'est...
Oui, toutes.
On va quand même l'écouter. Et nous reprenons ensuite la chronique presque littéraire, numéro 9. Va arriver dans quelques instants, mais restons encore sur ce Trauernacht donné au Théâtre de Célestin, encore ce soir, relâche demain. Il faut, après tout ce travail fait, il faut se reposer un peu, et reprise vendredi, samedi et dimanche.
Thank you.
peut-être que cette première chanson de Shakespeare n'est pas encore terminée. Oui, je crois qu'elle n'est pas terminée. Il doit en rester encore un passage. Et il y a ensuite les quatre autres chansons. Cet extrait, donc, Quilter. Cinq chansons de Shakespeare, opus 23. C'était Elisabeth Boudreau, notre invitée, qui était la soprano. Christopher, hein, je ne l'ai pas nommé de cette manière. Christopher Gaudreau était au piano. Soprano-piano, je sais plus ce que je dis, parce que je vois peut-être sujet mu en cette fin d'émission. Fiona, encore Elisabeth Boudreau, Fiona Maygon, comment parler de... Encore quelques mots sur ce spectacle, ce beau spectacle, Nuit funèbre, Trauernacht, de Jean-Sébastien Bach, extrait de cantate. D'ailleurs, plein de cantates, hein, ça peut sembler assez effrayant si je lis tous les cantates. BWV 146, 48, 127, 60, 90, 8, 169, 71, 105, 159, 46, 82. Et le choral BWV 668. On aurait dit le tiercé, plus ou moins. Non, pas vraiment. Alors que, très bon ce terme, parfait. La poésie, comment est-ce que vous avez réussi à faire passer ça, à passer ça sur scène, Elisabeth, Fiona?
Mais je crois en fait, on a été dirigés vraiment comme des acteurs dès le départ, ce qui fait une grosse différence. Robin, qui est vraiment habituée de travailler avec Katie, c'est un peu comment elle fonctionne, comment elle travaille avec ses artistes d'habitude. Donc, dès le départ, on a vraiment été immergés dans l'univers Katie Mitchell, qui est un univers très théâtral. J'imagine que vous en êtes rendu compte aussi en venant au spectacle.
Et puis, alors c'est bien que ce soit au Théâtre des Célestins.
Oui, absolument. Puis, je pense que l'emphase a toujours été une emphase émotionnelle. Ça n'a jamais été... Oui, c'est un spectacle qui est très poétique dans sa forme, mais il n'y a jamais d'élan poétique. Donc, pour nous, en fait, c'est une recherche constante. À chaque fois qu'on va sur scène, chaque soir, c'est dans un espace de découverte, parce qu'il faut absolument qu'on laisse cet espace émotionnel-là pour voir qu'est-ce qui va arriver. C'est différent à chaque soir. À chaque soir, on se donne entre nous une énergie qui est un peu différente, puis il faut se permettre cet espace-là, je crois. Donc, c'est très intéressant parce que il y a rien qui est fixé. Puis à chaque fois, on doit un peu plus se mettre à nu que le soir précédent. Donc pour nous, c'est extrêmement demandant, mais en même temps, c'est très gratifiant. Puis on en parlait avec Fiona dès le départ. On a eu l'impression vraiment de partir dans un deuil. Et puis ça évolue à chaque soir, ça évolue au fil des répétitions, parce qu'au départ, on était tous très très près de ce deuil-là, qui a été nourri vraiment très profondément par Robin, qui nous a dirigé d'une façon incroyable. Et puis, ça a été très difficile au départ, parce que c'est, comme on en parlait, un sujet qui est très, très proche de nous tous. Et puis, plus on avance dans les représentations, plus ça évolue, plus on découvre des choses qu'on n'aurait pas cru découvrir. Et puis... on se permet tous, on a une équipe incroyable, puis on se permet tous vraiment d'aller sur ce chemin-là chaque soir, puis c'est quelque chose qui est incroyable, qui est difficile, mais incroyable.
Le spectacle évolue comme dans un deuil, dans la vraie vie, quoi.
Exactement, c'est ça qui est incroyable d'ailleurs. Moi, je remarque que plus les représentations passent, et plus mon deuil est paisible.
C'est ça, c'est incroyable. Exactement ce que j'entends dans ce que vous dites. Ouais.
On était, mais... Oh, moi, j'étais vraiment tout le temps au bord des larmes, voire en train de pleurer sur scène au début des représentations. Et là, depuis hier, il y a comme une disponibilité nouvelle. Je peux voir des choses sur scène que je ne voyais pas avant. Je vois mon frère, une façon de prendre les lunettes du père, que je n'avais pas la disponibilité avant, parce que j'étais tellement dans mon émotion. Et je pense que quand, d'ailleurs, pour le public, je sais que plus on est... paisible dans l'émotion, et plus il y a de la place pour le public aussi de recevoir et d'avoir sa propre émotion. En fait, je pense qu'on
laisse... Vous étouffez pas le...
Voilà, on laisse de plus en plus de la place au public pour avoir cette émotion qui nous traverse depuis le début.
Du coup, ce travail a été vraiment fait sur une direction de l'acteur.
Complètement,
en fait.
Complètement. C'est pour ça que je pense que ça nous a autant plu. C'est que, en fait, c'est pas tout le temps à l'opéra. Ça arrive qu'on nous dise tu vas à droite, tu seras à gauche.
Ouais, alors que là, il y a un vrai travail.
Là, c'est... Ouais.
Et vos familles respectives sont venues voir le spectacle
À Grenoble, peut-être
Non, ma mère vient samedi. Voilà.
Voilà, j'ai beaucoup insisté pour que mes frères viennent, mais
c'est à voir, hein, c'est à voir. Même si je ne sais pas, j'ai entendu parler de personnes qui auraient des réserves sur la mise en scène. Je ne sais pas vraiment qui ça peut être. C'est quand même.
Mais
visuellement, c'est un très beau spectacle. Voilà, ouais. Cette lumière bleue, enfin du moins ce fond bleu. Les musiciens sont au fond, ils sont sur scène, mais ils sont cachés au fond par une sorte de un voile un petit peu qui est tendu. Et vous quatre sur scène, vous évoluez de manière très très belle, c'est un beau spectacle et j'ai vu Rigoletto la semaine dernière, c'est chronique presque littéraire numéro 9. Non, parce que Rigoletto Rigoletto c'est un peu difficile, hein. C'était bien, il y avait une belle Gilda, Rigoletto lui-même ça pouvait aller, le duc de Mantoue était correct aussi, le Daniele Rustioni dirige parfaitement son orchestre de l'Opéra National de Lyon, c'est magnifique, mais alors cette mise en scène d'Alex Ranisch, c'est...
Mais c'est marrant, cette chronique littéraire. Je suis en train de me dire que j'aurais presque pu refaire Anne Berest. Puisque là, ça aurait du sens.
La carte postale,
Je
n'ai pas lu celui-là.
Eh bien, je refais les deux, Christophe.
Magnifique livre sur Frida Kahlo.
Alors son dernier livre s'appelle La carte postale et c'est mon coup de cœur depuis 2022, mais on est en mars. Mais vraiment, j'ai adoré et ça parle justement de relations familiales. Enfin, c'est magnifique, hein. Franchement, je vous le conseille. La carte postale d'Anne Berest, c'est magnifique. Alors, je dis ça, mais je ne vais pas du tout parler de ça aujourd'hui.
Il faudrait un indicatif musical que je t'ai. Chronique presque littéraire, l'égoïsme se partage.
Chronique,
je t'en prie.
Presque littéraire, l'égoïsme se partage, hashtag 9. Encore une fois, nous allons parler d'injustice, mais d'injustice écologique, cette fois à travers le dernier livre de Jean-Luc Bizien, Le botaniste. Depuis quelques jours, nous sommes noyés sous les informations qui concernent la guerre en Ukraine. La presse ne parle plus que de cette guerre et de ses conséquences sur l'Europe. Après avoir été noyé par la pandémie mondiale pendant des mois, bref, on poursuit cette concentration médiatique sur des sujets uniques. Alors certes, ces informations sont importantes, essentielles, mais elles ont le défaut de relayer au second plan une actualité rampante et néanmoins menaçante, la survie de notre planète et donc par conséquent la survie de l'homme, avec un grand H. La littérature a donc cette force indispensable de prendre du recul et de ralentir cette époque de surinformation qui ponctue notre quotidien. Une fois n'est pas coutume, pour ces chroniques presque littéraires, je vais vous parler d'un polar. L'histoire est assez simple. Au démarrage, alors qu'un procès démarre à New York City, contre un richissime industriel qui exploite la forêt primaire amazonienne, quatre membres du jury sont kidnappés malgré une surveillance soi-disant implacable des forces de police. 4 sur 7 uniquement, mais pourquoi ces 4 là précisément? Comment est-ce donc possible, malgré les services de sécurité ultra entraînés? Alors que ce procès n'intéressait pas vraiment les foules et que l'opinion publique et donc la presse ne couvrait que très peu cet événement, ce kidnapping va permettre de mettre en lumière cette affaire. L'histoire nous entraîne au milieu de la forêt amazonienne, à travers également les narcotrafiquants de l'Amérique du Sud, mais également à travers le petit monde des ultra-riches. Alors certes, comme tout polar américanisant, on pourrait regretter des mises en scène un peu trop rocambolesques et très cinématographiques, dignes d'un blockbuster américain. Néanmoins, à travers cette histoire qui nous tient en haleine pendant plus de 450 pages, on reprend conscience du monde qui nous entoure et de la fragilité de notre planète face à un système capitaliste qui broie tout sur son passage sans réfléchir. C'est parfois too much, je l'avoue, mais Jean-Luc Bizien nous entraîne avec talent dans ces nombreuses péripéties où les gentils et les méchants ne sont pas toujours là où on les attend. On est plus sur un scénario hollywoodien, mais avec un vrai fond tant sur les personnages plus ambigus qu'ils n'y paraissent que sur le fond de cette histoire qui nous rappelle les nombreuses inégalités dans ce système. C'est publié chez Fayard, et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir leur lecture, Jean-Luc Bizien sera un des invités de la prochaine édition du festival Quai du Polar, le premier week-end d'avril, et notamment lors d'une rencontre à l'Opéra Underground, le 2 avril après-midi. Merci pour cette 9e chronique.
Très très bien Francis, c'est parfait, tu lances un peu les annonces peut-être Fiona, Elisabeth, juste avant qu'on reprenne quelques mots pour parler de ce beau spectacle et puis peut-être la suite, il y a une reprise à Clermont, vous nous avez indiqué tantôt, il est encore repris peut-être un peu plus loin, enfin bref, nous allons vous questionner sur ces différentes choses, il y a aussi un rôle de Papa Ghana à venir un peu plus tard, mais donc quelques annonces, Festival Quai du Polar, on aurait pu avoir un invité ce mercredi ou le suivant et en fait ça a été un peu compliqué, donc bien tant pis.
thérapie. Et puis sur ça... ce festival qui est du polar, ce que j'aime bien aussi, c'est
ça
que
commence ça, la semaine prochaine. Ça commence jeudi 31.
Oui, c'est ça. Et puis il y a des rencontres qui sont musicales, donc peut-être que ça peut aussi, voilà. Donc là, les auteurs sont plutôt dans des cultures rock, donc ça fait
punk des... aussi, quand
punk dans aussi le... complètement. Et il y a pas mal de rencontres entre des auteurs et des groupes de rock ou de punk qui se font soit au théâtre à Odéon dimanche 3 avril, me semble-t-il, et puis à l'Opéra Underground, la petite salle de l'Opéra en bas.
Ah bah on a reçu Richard Robert, c'était mercredi 2 mars, émission de 155-6, je ne sais
donc
plus.
Voilà, si vous êtes encore dans les parages, j'imagine que vous allez repartir voilà, en tournée.
Vous allez de nouveau chez nous,
voilà, encore voyager.
On va rentrer chez nous.
Donc ouais. Nous parlons, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, Fiona, ce spectacle s'inscrit dans Secret de famille, il y a d'autres opéras programmés, j'en ai dit un mot, Rigoletto, je ne vais pas en dire davantage, et Reloé, je ne suis pas allé. C'est donné, en gros, tout a commencé la semaine dernière, le vendredi 18 mars, et cela se termine, c'est une belle durée jusqu'à début avril, jusqu'au 6 avril, je crois. Pour ce qui est, vous, de cette Trauernacht, c'est un peu plus court. Il faut que le Théâtre des Célestins puisse également donner ses pièces à eux. Donc vous, c'est ça, jusqu'à ce dimanche 27 mars, alors que Irelloe et Rigoletto, c'est un peu plus tard, jusqu'au 7 avril, Rigoletto. Un peu plus tard dans la saison, il y aura Shirin, Peer Gynt et Hansel et Gretel. Peut-être que Atik Raimi pourrait venir à l'émission, Francis, ce serait une bonne chose, hein. Que connais-tu ?
Non.
Ah, oh, prix Goncourt 2008 quand même, auteur du livret de Shirin, mais tiens, tu liras ça. Mais bon, ça c'est l'opéra à venir un peu plus tard. Au théâtre, actuellement, au Théâtre des Célestins, Nuit funèbre, donnée jusqu'à ce 27 mars, un peu plus tard, Et moi dans le silence, et puis encore notre pièce Kingdom, et puis dans un autre théâtre, le TNP, actuellement est donné Dissection d'une chute de neige, et puis commencera la semaine prochaine l'affaire Correra, enfin non, du moins dans deux semaines, et nous recevons François-Yen pour nous parler de cette affaire Correra, du théâtre, comment le qualifier, du théâtre engagé, théâtre documentaire, une pièce sur cette Madame Correra qui a 70 ans, qui doit être relogée, et c'est très compliqué de lui trouver un relogement, et j'ai commencé à lire le texte, c'est absolument génial, mais alors c'est complètement différent de Bach. Pour le coup, on est plus dans du trivial, et des choses qui sont très, 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 très humaines aussi, mais très dures, et puis très glauques un peu. Des choses assez différentes pour reprendre sur de la musique, à venir à la Biennale de musique exploratoire, Biennale de Gramme, et bien venir plusieurs œuvres à l'auditorium, dans la grande salle du 3e arrondissement, un peu plus loin que la salle de l'opéra, à venir une œuvre assez particulière, Vittorio Montalti et Blow Up Percussion, The Smell of Blue Electricity. C'est assez stupéfiant, c'est donné deux fois, c'est beaucoup de percussions, beaucoup de sons électroniques. C'est la Biennale, c'est comme ça, cette Biennale des musiques exploratoires. Donc ça s'est donné les samedis 26 mars et dimanche 27 mars. Samedi, l'heure du goûter, 4h30. Dimanche, heure du café, à 2h30. Et puis le samedi soir, à 18h, un concert symphonique des œuvres de Bach, de Morciano, Xenakis et également Olga Neuwirt, qui est compositrice... qui a déjà donné d'autres œuvres à l'auditorium avec donc l'orchestre national de Lyon qui sera dirigé par Ilan Volkov. Et puis pour de la musique, Bruno Rigotto vient jouer l'intégrale des Nocturnes de Chopin ce vendredi à Piano à Lyon. J'irai, donc je ferai un compte rendu, ça devrait être très très beau, ça pourrait être très bien. Et enfin, pour terminer, la semaine dernière c'était Antique Hip Hop, c'était Fabien Bièvre-Perrin qui venait pour parler de ses références à la culture antique dans la culture pop populaire contemporaine. Et bien il y a le festival européen latin grec qui commence le 23 mars, c'est aujourd'hui, jusqu'au 26. Il y a une programmation qui est à retrouver sur le festival latingrec.eu. Différentes œuvres différentes choses seront faites, des lectures, notamment la lecture de l'œuvre Œdipe Roy, qui rythmera les 4 jours de ce festival. Ce sera certainement très spécial, également spécial à la mort à la vie. Je termine, Ludmila Virasa Minaiken, commissaire d'exposition, était venue nous en parler. En janvier dernier, je crois, c'est ça. Donc bref, à Lyon, il y a plein de choses à faire, mais surtout, il faut se rendre sur cette belle place des Célestins, parce que, je ne sais pas, une sorte de mot de la fin à 14h59 peut-être, Elisabeth Fiona, toutes les deux pouvaient avoir un mot de la fin. C'est un beau spectacle, on les a
parce
bien nommés.
Parce que les Magnonias sont en fleurs actuellement, la place est vraiment sublimissime.
Et sur scène, c'est très beau.
Et puis la musique de Bach, quand même, on ne peut pas passer à côté, c'est vraiment trop beau.
Vous avez des échanges avec le public, ils vous attendent parfois à l'entrée des artistes, c'est ça? Ou alors c'était surtout samedi, lors du pot de première, que vous avez pu voir des personnes.
Oui, on a eu des retours au pot de première, mais il y a toujours des gens qui traînent à l'entrée des artistes pour dire des choses qu'ils ont ressenties. C'est agréable d'ailleurs.
Et personne n'a râlé, non? Les gens.
Ah, il y a quelqu'un qui a dit où est le metteur en scène? Qui a cru qu'il fallait mettre en scène du Bach? C'était drôle.
Ah.
Ouais, voilà. Bach n'a pas besoin de mise en scène. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est magnifié.
C'est pas moi, hein, qui.
Non, peut-être que c'est vous.
Oh non. Oh mince, c'est pas vrai. J'étais aussi maladroit que ça.
Vous avez mis un masque, Christophe.
Si c'est bien le cas, vous êtes bien aimable d'être venu aujourd'hui pour parler de ce... Moi, je maintiens tout de même, c'est un spectacle magnifique à entendre ainsi qu'à voir pour ce qui est de la beauté visuelle. Après, oui, moi, je n'étais pas forcément...
On vient d'avoir une belle explication de cette mise en scène.
Ah,
oui.
On sent les étudiantes qui sont passées par d'autres choses que oui, la carrière classique.
Tout,
mais... Non, mais les anciennes étudiantes qui ont étudié de la littérature, de la poésie, enfin plein de choses et qui donnent donc...
Et qu'est-ce qu'on peut vous
proposer des clés
pour la suite, du coup, c'est de garder ce côté un peu émotion sur vos futurs spectacles.
Ben, je pense qu'on a appris beaucoup de ce spectacle-là d'une façon ou d'une autre. Oui, je pense que il y a cette facette-là d'exploration et de découverte qui est très riche. Et je pense que si on réussit à apporter ça dans les autres spectacles, ça va être absolument incroyable. Mais c'est pas toujours donné. Mais maintenant qu'on l'a trouvé, qui sait? Qui sait? Peut-être qu'on pourra apporter un peu de la magie de Traornart avec nous.
On vous le souhaite.
Fiona, j'ai lancé tout à l'heure que Papagena serait sur la scène de l'Opéra de Strasbourg. Elisabeth Boudreau incarnera ce rôle. Oui, Pamina, c'est le rôle principal, c'est Pamino. Tamino également, c'est ça, je crois. Tamino, Pamina, et puis là, donc Papageno. Mais si, Papagena, elle intervient. Ah, c'est un peu vers la fin, c'est ça, c'est pas forcément. Mais...
Oui, un petit zoo très connu.
Ben, c'est très bien. Vous, Fiona, est-ce qu'on pourra vous voir à part Clermont la semaine prochaine pour encore... Est-il repris ce Traornart? Je l'ai indiqué tout à l'heure.
C'est suspense. Pour l'instant, on peut rien dire. Mais vous m'entendrez en mai et en juin chanter Orphée dans Orphée et Eurydice de Gluck au Théâtre Impérial de Compiègne et à l'Atelier Lyrique de Tourcoing. Voilà.
Ah, ça c'est...
Autre magnifique musique, s'il en est.
Je sais que Berlioz estime beaucoup Gluck, l'Orfeo, moi je connais celui de Monteverdi, mais je connais mal celui de Gluck. Comment nous séparer en musique? Est-ce qu'on pourrait... Oui, si, je l'ai préparé, le premier morceau de ce chamber music, He Who Has Glory Lost. C'est peut-être bien, poème de James Joyce. Nous allons donc nous dire au revoir. Francis, rendez-vous chronique numéro 10 la semaine prochaine avec François Hayen pour l'affaire Correra au TNP la semaine suivante. Fiona Elisabeth, vous êtes ce soir sur la scène des Célestins, demain relâche. Vendredi, samedi, dimanche, salve finale, 3 dates. C'est à 20h les vendredis, samedi, à 16h le dimanche. Et ensuite, Clermont la semaine prochaine pour ce beau spectacle. J'essaierai de remettre la main sur la personne grossière et goujate et éhontée qui a pu dire de manière fort discourtoise « Oui, Bach n'a pas besoin de metteur en scène, je ne sais pas qui a pu prononcer ça. » Et puis, je vous remercie encore et d'être venu aujourd'hui et d'être sur scène des artistes, j'allais dire chanteuses, non, plus que ça, des artistes lyriques vraiment complètes
et stupéfiantes. Merci pour votre invitation.
Et très,
merci
très émouvantes. Écoutons donc, merci à vous. Merci à Camille Pépin qui a orchestré cela. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, auditeurs, auditrices, d'autres émissions à venir. Blues des Canus, je n'aperçois pas Pascal pour le blues à commencer dans quelques instants. À 17h, émission qui porte le nom, je l'ai sous les yeux à présent. Oui, l'émission à 17h, c'est Mélomaniac, Mayday à 18h, Canu Info à 19h. À 20h, Idées Noires, émission de l'UCL. 21h, la bande-son de nos révoltes, ou bien à l'Est, l'Éden. Et enfin, à 10h, de 22h jusqu'à minuit, Boulimix, Funky Stéry. Auditeurs, auditrices, restez à l'écoute des bandes de Radio Canu. Et sortez aussi, la place d'Emmanuel et la place des Célestins est très belle avec les Magnolias, mais il faut également pousser la porte et entrer. Les tarifs sont très doux, hein. C'est pas les tarifs de l'opéra du 50 ou 60 euros, c'est absolument abordable. Merci beaucoup, Francis, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine,
au revoir tout le monde, merci.
who have glory lost, nor have found any soul to follow his. Among his foes in scorn and wrath, holding to ancient nobleness, that high inconsiderable one, his love is his companion.